Bonjour et bienvenue à Scal 17-18 avec Fulgence Plat au micro et Maurice Bolduc à la technique. Voilà, c'est la dernière de la semaine, c'est la fin de semaine, c'est le week-end comme disent d'autres. Voilà, en première partie d'émission, j'ai choisi quelques sujets pour vous. Je vais parler d'une grande dame de la Nouvelle-Écosse, Portia White. Ouais, grande chanteuse qui nous a quittés il y a quelques années. Et pas vraiment connue du public. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Alain Saulnier qui va nous parler des barbares numériques. Comment résister à l'invasion des GAFAM? Voilà, restez à l'écoute. Et puis bon, ben, pour ceux qui veulent savoir plus que ça, bon ben c'est juste une heure ensemble, hein, comme tous les jours. On part en musique avec cette dame, Portia White, Think On Me. Portia White, Think On Me, voilà, grande chanteuse qui n'a pas eu la carrière escomptée, mais elle a une carrière quand même internationale, née le 24 juin 1911 et morte le 13 février 1968, une contralto canadienne, oui, de la Nouvelle-Écosse, connue pour être la première chanteuse de concert afro-canadienne à atteindre une renommée internationale, oui, grandie au sein de la chorale de l'église de son père Halifax. en Nouvelle-Écosse. Oui. C'est comme ça sa carrière. Et puis elle a participé à des concours de chants locaux lors de son adolescence et puis s'est formée ensuite au Conservatoire de musique d'Halifax. Ouais, c'est personnel, mais elle n'a pas eu cette carrière escomptée, quoi. Mais connue mondialement, bien sûr. Quelques pièces, elle n'a même pas eu d'enregistrement, d'album sorti de studio d'enregistrement. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ouais. Et puis, entre 41 et 44, elle a fait des études, ses débuts nationaux et internationaux en tant que chanteuse, tout court. Elle a reçu les éloges de la critique pour ses interprétations de la musique classique européenne et les négro-spiritueuses de l'époque. Elle a ensuite fait des tournées en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et puis en Amérique du Sud. Elle a eu un problème vocal, des difficultés vocales de la voix, et puis un cancer l'ont obligée à finalement à la retraite, à se mettre à la retraite. En 52, elle est venue s'installer à Toronto pour enseigner à des jeunes gens, des jeunes musiciens canadiens, ouais, comment chanter, comment faire de la musique. L'une de ses grandes dernières apparitions publiques, d'ailleurs, c'était une performance du Commandement Royal pour la reine Elisabeth II et le prince Philippe en 1964. C'est son parcours, ça. 95. Reconnue comme personne d'importance historique nationale par le gouvernement du Canada. J'en parle parce que nous sommes encore dans le mois de l'histoire des Noirs. Ça finit le 28. Oui. Personne d'importance historique nationale par le gouvernement du Canada. Et puis ses premiers soutiens en Nouvelle-Écosse, d'ailleurs, ont ensuite créé le Nova Scotia Talent Trust, qui attribue chaque année des bourses d'études artistiques aux artistes locaux, tant émergents qu'établis. Et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse continue de décerner chaque année le prix Porter White. Ouais. En 2007, elle s'est vue décerner le prix à titre posthume, un prix pour l'ensemble de son œuvre. Oui, c'est tout un parcours, hein. Ouais. Elle est née dans la petite localité de Truteau, ouais, 1911, à cette époque-là, ouais. Nouvelle-Écosse, troisième de 13 enfants. Ouais, née de Isidora White et de William White. Sa mère est une descendante des loyalistes noirs de Nouvelle-Écosse, tandis que son père est le fils d'anciens esclaves de Virginie. S'est installé au Canada de façon autonome. Il n'était plus esclave. Le père, bien sûr, la famille n'était plus esclave. Autonome. Elle a fréquenté l'université Acadia en Nouvelle-Écosse, et puis est devenu plus tard le premier. Là, lui, le père, le premier noir à obtenir un doctorat en divinité. En Acadie. C'est tout un parcours, hein. Je suis tombé sur sa biographie. Je dis, bon, bien, on est encore en plein là-dedans, dans le mois de l'histoire des Noirs. Il faut que j'en parle, quoi, sincèrement. C'est un hommage, un petit clin d'œil à notre manière ici, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, de lui faire un petit clin d'œil. Ouais, c'est comme ça. On a une deuxième pièce d'elle qu'on va écouter après, quand j'aurai fini de faire mon blablabla ou bien de parler d'elle. Je regarde Maurice combien de minutes hein, j'ai encore là, oui. Merci. Et puis, ouais, c'est en 1929, à l'université d'Alousie, où elle a étudié pour devenir enseignante dès le début des années 30, elle enseigne à Fricville et à Lucasville de petites. Ouais, c'est vraiment tout un parcours, quand même. Tout un parcours. Ouais, elle a participé régulièrement au festival de musique d'Halifax, où elle remporte le Helen Kennedy Silver Cup en 1935, en 1937 et en 1938, jusqu'à ce que les organisateurs du festival décident finalement de lui décerner la coupe de façon permanente. C'est un petit. Ouais, de façon permanente. Et en 1939, 10 ans plus tard, elle a obtenu une bourse pour poursuivre sa formation musicale au Conservatoire de musique d'Halifax, avec le célèbre baryton italien Ernesto Benci. C'est lui qui lui enseigne le style vocal du bel canto. Il donne bientôt son premier récital officiel. Ouais. Et après le début de la Seconde Guerre mondiale, elle a continué à chanter dans des concerts et des émissions de radio. Elle remporte des prix alors de festivals de musique provinciaux. Oui, c'est tout un parcours. Ouais. Tout un parcours est pris lors de musique provinciaux. Dans les années 41, elle rencontre Edith Reed, directrice d'une école de Toronto. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à Toronto, au fait, oui. Et qui lui propose d'organiser de nouveaux spectacles pour elle. Donc en 41, avec le soutien de Reed, Edith Reed, 30 ans, fait ses débuts nationaux en tant que chanteuse à Toronto, à l'auditorium Eaton. Un accueil favorable du public. Recevant même une offre de gestion de carrière de la part de d'Oxford University Press. Ouais. Était confrontée au racisme, bien qu'elle soit confrontée au racisme. À cette époque, bien sûr, ça peut se comprendre. Bon, c'est pas une excuse. Hein. Faut pas dire parce que c'était le temps de la ségrégation, le bon vieux temps, ou bien je ne sais quoi, qu'il fallait qu'il y ait du racisme à son égard. Dans sa recherche de nouveaux spectacles, elle a effectué ensuite une tournée à travers le Canada, donnant des concerts dans des lieux tels que la résidence officielle du gouverneur général, Harry Dohal. Musique classique, chante à la fois de la musique classique européenne et des Negro Spirituals, des œuvres de Harry Ballard, qui font constamment partie de son répertoire de concerts. Et après avoir été auditionnée par le directeur général de Metropolitan Opera, Edward Johnson, elle fait ses débuts internationaux à New York, en 1944, devant la première Canadienne à se produire, devenant la première Canadienne à se produire au Town Hall de New York. Le New York Times qualifie sa performance de remarquable. Cette époque, là, il faut le dire. White, contralto, a montré au public qu'elle a non seulement un instrument vocal magnifique, mais aussi qu'elle a suffisamment de musicalité et d'intelligence pour en faire ce qu'elle en veut. J'ai écouté quelques entrevues d'elle, une femme très modeste, très humble, très... Elle avait la tête sur les épaules, elle savait ce qu'elle disait. Cette maladie de la gorge et puis au cancer aussi, qu'elle a arrêté complètement sa carrière de chanteuse pour se consacrer à l'enseignement. Oui. Héritage et distinction en 1944, les partisans de White créent en Nouvelle-Écosse le nouveau Nova Scotia Talent Trust afin de lui fournir cette aide financière pour sa carrière de chanteuse. Et ça, c'est je reviens là-dessus. C'est différentes chansons. Ouais. Think on Me qu'on vient d'écouter en 68. Great Voice of Canada, le volume. Ouais. En 99, First You Dream, puis Library and Archives, Canada Also Holds. C'est pas plus, quoi. On n'a pas sorti un album avec 10 pièces, 5 pièces, 6 pièces, quelque chose comme ça de ce genre. Bon, mais malheureusement, le cancer et puis les problèmes, les difficultés de sa gorge ne lui ont pas permis de continuer sa carrière de chanteuse. On va écouter une nouvelle pièce, une deuxième pièce d'elle, Monologue LG, Portia White. Time has he felt Vanessa White, Monologue LG. Merci, que la terre lui soit pour de bon, oui, légère. Voilà. Je vais parler un peu de tennis parce que je ne sais pas si le match est terminé. Il est en demi-finale à Denis Chapovalov. Ouais, je ne sais pas. Parce que là, je sais, le match avait commencé, mais je ne sais pas si c'était. Mais je savais qu'il était qualifié pour les demi-finales. Ça se passe à Dubaï. Ça se passe. Maurice, pourrais-tu jeter un coup d'œil pour savoir si c'est fini quand je. Maintenant, je vais parler de son ami Félix Auger qui ne s'est pas présenté au tournoi de Dubaï, mais il était parce qu'il avait joué. Il était en finale à Marseille. Effectivement, voilà. Et il s'est incliné en finale du tournoi de Marseille là, face au Russe Andrey Rublev. Voilà. Ah, donc c'est vraiment, il est au top ce garçon. Maintenant, c'est les demi-finales, les finales, et puis bon, rien d'autre quoi. Ah, je pense qu'il a pris une bonne décision. Il veut se reposer un peu pour reprendre en mars quand il y a le tournoi d'Inde, en Nidelimien, je ne sais où, je vais vous parler de ça rapidement, parce qu'il s'est retrouvé en finale dernièrement le dimanche, et puis bon, en même temps, il y avait le tournoi de Dubaï qui commençait. Ah non, je ne suis pas une machine, à un moment donné, il faut savoir récupérer un peu. Donc, il a baissé, il a été battu par le Russe Andrey Rublev, 7-5, 7-6, 7-4, en finale du tournoi de Marseille. C'est bien, il a allé jusqu'à la finale, hein, donc on avait dit qu'il a une petite chose au Suisse, ouais. Il a ainsi raté l'occasion de remporter un titre de l'ATP pour un deuxième week-end d'affilée, quoi. Ça a l'air vraiment beau parce qu'il a remporté son premier titre à Rotterdam, en Hollande. Donc là, maintenant, si c'était accroché ce trophée-là encore, ça allait être quelque chose de ce. Oui, Maurice, je t'écoute.
Ben, je connais rien des chiffres. Mais je pense qu'il a perdu Chapovalov.
Et contre, oui.
Contre Veselý.
Ah oui, le Tchèque.
C'est marqué, oui. Chapovalov a gagné la première 7-6, puis les deux autres, c'est 7-6 pour l'autre monsieur.
Merci Maurice.
Donc je présume qu'il a perdu 2-3.
Ils viennent de finir. Ils viennent de finir. Ouais, le demi-finale, s'il gagnait ça, il allait en finale à décrocher. Voilà, celui-là, c'est lui qui a ce Tchèque-là. C'est lui qui a fait tomber aussi. Il a battu l'ancien premier qui ne sera plus Djokovic.
Ouais.
Djokovic. Il est 129e, ce garçon. 129e qui bat le numéro 1 mondial.
Ouais, mais c'est toujours une question de timing, la fatigue, il y a toujours plein d'éléments.
Ouais, il n'a pas assez joué ces derniers temps, Djoko.
Il y a ça, il y a plein d'éléments.
Oui, ouais, c'est vrai. C'est ça aussi, ça
le terrain était glissant, je sais pas quoi. Là,
un manque de compétition, ça joue beaucoup. Même si tu es premier, il y a l'autre là qui va prendre la place de Myriam en parlait hier d'ailleurs, et comment il s'appelle le Russe là, Medvedev.
Oui.
C'est lui qui va être premier mondial maintenant. Et la position ou bien le poste de premier mondial, Rafael Nadal dit non, je ne suis plus dans la forme physique pour aller chercher à être premier mondial, numéro 1 mondial ou bien quelque chose comme ça. Je me contente de ce que je peux faire maintenant. Si j'arrive à me décrocher des trophées par-ci par-là, ça me suffit comme ça. Là. Voilà, j'ai déjà été premier mondial, ça suffit. Donc, Félix Auger n'a pas été à Dubaï. Il a perdu sa finale, mais je lui dis bravo quand même. Aller jusqu'en finale au tournoi de Marseille, c'est déjà pas mal. Il a eu quelques mots à l'égard de son coéquipier, de son adversaire. Il a dit bravo à toi et à toute ton équipe, André. Nous avons toujours eu de belles batailles sur le court et le match d'aujourd'hui ne fait pas exception à la règle. Puis après la rencontre d'ailleurs sur le court, oui, mais il dit merci à mon équipe, à ma famille. On a fait deux belles semaines. Merci pour le travail et on va continuer comme ça. J'espère qu'on va gagner plusieurs autres titres. Il a 21 ans. Il a 21 ans comme son ami Denis Chapovalov. Je sais pas. Chapovalov a 22 ans maintenant. Un an de plus, si je me trompe pas. Alors, donc, mais le Russe, lui, il a 24 ans. Celui qui a battu Roger Yassine à Marseille. Ah, il s'est retiré, il a dit, mais si c'est comme ça, je ne vais pas à Dubaï, sinon je vais être trop craqué pour ne pas pouvoir être capable de participer au tournoi en Inde, là, bientôt, ça commence en mars, ça va du 10 au 20 mars, Indian Wells, voilà. Ça, c'est même pas en Inde, ça se passe quelque part là-bas, en Californie, ouais, Indian Wells, ouais. Alors, Chapovalov, je pense bien qu'il va décrocher un trophée bientôt pour lui, comme ça, lui et ses amis vont se retrouver pour prendre un verre ensemble, pourquoi pas. Je leur souhaite. Le tennis, c'est quelque chose, le sport qui a toujours été, comme on dit, le sport le plus difficile pour moi parce que tu es face à un adversaire. C'est pas un sport d'équipe. Bon, quelquefois, ils ont des matchs où il y a deux, deux contre deux. Ouais, oui, mais c'est pas toujours, c'est toujours un contre l'autre. C'est ça le sport du tennis, là. Voilà. Alors, Djokovic, comme je le dis, et ça va être annoncé d'ailleurs d'ici le début de la semaine prochaine, qui est le premier. Bon, c'est Medvedev, le monde le sait déjà. Donc, son rendez-vous manqué face à ce garçon 121e place, le Tchèque, la 129e place, position. Ouais, tu te dis, mais ce garçon, il a fait quand même un beau saut quand même, battre le premier mondial. Tu te dis, bravo à moi-même si je suis 129e. Bon, les cabarets acoustiques Nuit d'Afrique, ça revient. Du 3 au 13 mars, c'est bientôt là. C'est des rendez-vous musicaux derrière chaque semaine, du jeudi au dimanche, dès 21h. Les billets sont en vente là-bas, à l'entrée du Balatou. Ouais. C'est-à-dire que vous vous rendez là-bas et vous prenez votre billet au et le spectacle. Et puis c'est à partir de 21h, ça commence jusqu'à quoi. Quand les artistes sont fatigués, ils arrêtent le spectacle et puis c'est fini, quoi, avant les concerts. Les concerts, c'est deux semaines, les deux prochaines semaines feront voyager de la Côte d'Ivoire à la Colombie, au Burkina Faso, République démocratique du Congo, en passant par le Trinidad et Cuba. C'est les artistes, c'est l'origine des artistes que je cite comme ça. Donc ça va être quelque chose de vraiment très, 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 très intéressant. C'est la semaine du 3 au 6, dès 21h. Tadjoa, la musique populaire urbaine, le Zouglou, c'est les Ivoiriens. Et puis il y a Bumbaranga, c'est un mélange de Kumbia, Pouya, Tambora et Malapé. Et puis, je vous donnerai la suite la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 10 au 13. Je vous en parlerai pour ces cabarets acoustiques Nuit d'Afrique qui se passe au Balatou. On termine la première partie de l'émission avec Christo Mahé. Il est où le bonheur ?
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? J'ai fait l'amour. J'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut, j'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là.
Christophe Maé, il est où le bonheur? Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire et la première pièce musicale, nous allons recevoir Anne Saulnier qui va nous parler des barbares numériques. Comment résister à l'invasion des GAFAM? Oui, aux éditions, bien sûr, Éco-Société. Un très bon livre. Voilà, il y a de quoi apprendre là-dedans. C'est déjà en librairie, n'hésitez pas. Il va nous dire un peu plus quand on l'aura après la première pièce musicale. Restez à l'écoute. À tout de suite.
Écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Doesn't matter who you love, son, if you don't love yourself, son. She could be the only one. And still now I wanna stay if you can't get a hold on. What's been doing your soul wrong? Been hanging on for way too long. Like living with a loaded gun. Living with a loaded gun. So let's have a tick, tick, talk about the time that I have left. Always trying to leave you, darling, give up these cigarettes. I can only say farewell when I know there's nothing left. Till the next time there ain't nothing left. Doesn't matter who you love, son. If you don't love yourself, son, she could be the only one. And still not wanna stay if you can't get a hold on. What's been doing your soul wrong? Been hanging on for way too long. Like living with a loaded gun. Living with a loaded gun. Let your body hang like three sheets in the wind. Someday they'll blow away, rip right through the pins. And if you pour whiskey on them, wrap them around women you just met, well, one day there'll be nothing left. Ain't no next time when there ain't nothing left. Doesn't matter who you love, son. If you don't love yourself, son, she could be the only one. And still not wanna stay if you can't get a hold on. What's been doing your soul wrong? Been hanging on for way too long. Like living with a loaded gun. Living with a loaded gun. And yes, there was a time when I thought to say goodbye. Oh, I'd just walk into a field somewhere, sit back and close my eyes. Cause the woman I love ain't the woman I love no more. Still the woman I love gave me more than any woman before. Doesn't matter who you love, son. If you don't love yourself, son, she could be the only one. And still not wanna stay if you can't get a hold on. What's been doing your soul wrong? Been hanging on for way too long. Like living with a loaded gun. Living with a loaded. With a loaded gun. Living with a loaded gun.
William Prince, Prince William, ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est lui, William Prince, de Gane. Voilà, j'aime bien cet artiste, c'est un Canadien. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, Alain Soulier, qui va nous parler des barbares numériques et comment résister à l'invasion des GAFA, des GAFAM, parce que Microsoft, je te l'assure, avant on disait les GAFA sans Microsoft, maintenant Microsoft fait partie de la clique, de la bande, donc c'est les GAFAM. Alors pour les gens qui ont adoré les nouvelles, mais qui écoutaient souvent Radio-Canada, doivent savoir au moins, mais les nouvelles ici au Québec surtout, doivent savoir au moins qui est Alain Soulier, c'est un journaliste de profession, il a dirigé le service de l'information à Radio-Canada de 2006 à 2012. Voilà, c'est 6 bonnes années bien comptées, quoi. Voilà, et enseigne le journalisme à l'Université de Montréal, a enseigné, bien sûr, de 2012 à 2022. Oui. Alors, il va nous dire s'il continue ou bien s'il a arrêté, parce qu'on est en 2022. Il est l'acteur de ceci qui était. Ici était Radio-Canada Boréal en 2014. Bon, celui que j'ai. Mais ici, là, c'est pas gros, hein. C'est, on peut avoir même dans la poche de son manteau. C'est pas une brique, comme on dit, mais l'essentiel est là-dedans. Bonjour, Alain Saulnier.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. Je regarde dehors et puis il y a eu une belle neige qui est tombée. Alors, j'aime l'hiver.
Un instant. Oui, on a eu un problème technique ici. Voilà, c'est mon...
Pas de problème.
Oui, d'accord. On y va tout de suite. Bon, celui, moi, je vous le dis tout de suite, je l'adore.
Bon, ben, c'est
ouais.
Gentil.
Ah ouais, surtout qu'on est en plein... Les GAFAM, au fait, qu'est-ce qui vous a poussé à aller prendre votre plume et puis parler de ces grands, de ces monstres? Moi, je les appelle des monstres. Hein. Vous les appelez ces grands seigneurs de notre temps. Ces nouveaux grands seigneurs de notre temps.
Oui, en fait, c'est des nouveaux conquérants d'une certaine manière. Puis c'est un petit peu ironique de parler des barbares numériques alors que à l'heure actuelle, en Ukraine, il y a d'autres barbares qui sont en train d'envahir l'Ukraine. Alors donc, d'une certaine manière, c'est pas les mêmes barbares, mais c'est le même genre d'événement. La seule chose, c'est que les barbares numériques, eux, ils n'ont pas utilisé d'armes d'aucune manière, mais ils ont réussi à s'insérer dans nos vies quotidiennes.
Oui.
Et puis, c'est pas si vous avez lu le livre, moi, j'utilise les réseaux sociaux, j'utilise le moteur de recherche Google. Ça m'a aidé à être un meilleur professeur et tout ça.
Oui.
Mais je constate quand même que depuis les 10 dernières années en particulier,
oui.
Et je le faisais à toutes les fois que je faisais des présentations à l'université, à mes étudiants et étudiantes, je constate que l'emprise de ces GAFAM sur nos vies, elle est rendue démesurée, elle est beaucoup trop grosse, et puis on n'est pas conscient jusqu'à quel point c'est venu complètement chambouler nos vies, défier l'autorité de l'État, aussi bien canadien que québécois,
oui.
Défier les lois de l'impôt, les lois de la taxation normale pour toute entreprise qui exerce des activités ici au pays.
Oui.
Et puis, en plus, la désinformation qu'on a connue depuis l'arrivée des réseaux sociaux, c'est complètement dément d'une certaine manière. Donc, moi, face à tout cela, je me suis dit, je pense qu'il faut qu'on fasse une prise de conscience et qu'on essaie d'établir un peu comment on peut cohabiter avec ces nouveaux conquérants,
oui.
Avec ces barbares numériques.
Oui, et puis, non seulement ça, pour compléter ce que vous venez de dire, nous sommes tous devenus des esclaves numériques.
Tout à fait. Moi, j'appelle ça de la dépendance, un peu comme quelqu'un est dépendant à l'alcool ou à la drogue.
Oui.
Parce qu'on ne peut plus s'en passer.
Oui.
Regardez, quand vous vous promenez dans la rue maintenant, tous les jeunes, toutes les personnes ont toujours un appareil mobile et les yeux rivés sur leur site Instagram ou Facebook ou en train de répondre à leur courriel. Dans les autobus, les gens ne se sourient plus. Mm-hmm. Ils sont tous leurs yeux rivés sur leurs écrans.
Oui.
Alors, ça a changé complètement l'activité et la société dans laquelle on vit. Là.
Oui, mais c'est bien avant la pandémie. Ils ont tous le visage, comme le dit, dans leur écran, comme le cycliste, son visage dans le guidon. Quoi.
Exactement. Mais d'une certaine façon, les gens, tout en faisant ça, sont en train d'adopter un nouveau mode de vie,
oui.
Mais ne sont pas conscients que du même coup, ils sont en train de rendre riches comme ça n'a jamais pu exister dans toute l'histoire, les géants numériques dont je parle. Mm-hmm. Et puis, ils sont en train de leur donner un tel pouvoir qu'on ne pourra même plus un jour, même avec des législations suffisamment organisées pour les encadrer, pour qu'ils soient capables d'être, je dirais, au moins régulé, réglementé d'une certaine manière.
Oui, oui. De toute façon, on peut plus reculer. On le fait que voilà, c'est.
Non, on les jettera pas à la mer. Là, les géants numériques, ils sont là pour rester. On changera pas ça. Mm-hmm. Mais par contre, il est temps que les États soient en mesure de pouvoir bien organiser, bien encadrer, bien réguler leurs activités.
Oui, oui. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, moi, je l'ai là. Je l'ai. Je l'ai presque fini. Ce sont les nouveaux, les GAFAM, là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les nouveaux grands seigneurs de notre temps. Oui, c'est les GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Avant, on disait les GAFA parce qu'on n'avait pas ajouté Microsoft là-dessus. Maintenant, on se dit les GAFA, Microsoft fait partie de la clique maintenant, comme je disais. Et autres plateformes, Airbnb, Uber et puis Netflix, tout ça règne sans partage. C'est un résumé comme ça sur scène du livre. Un empire numérique qui transcende les frontières nationales au mépris de la souveraineté des États et de leur législation, comme vous le dites.
C'est ça. Et puis, c'est comme si on ne l'avait pas vu venir, tout ça.
Oui.
On les a laissés aller complètement.
Oui, oui. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de faire cet essai pour dire, bon, les GAFA vont réagir?
Oh! Si vous saviez comment je ne suis pas peureux dans la vie. je peux avoir des trolls contre moi sur Facebook, sur Twitter, et puis je ne suis surtout pas peureux.
Oui.
Non, honnêtement, je pense que ça doit les agacer que un livre comme celui-là soit publié.
Oui.
Parce que je sais que ce livre-là a un réel impact. Je voyais, par exemple, sur Twitter, plusieurs personnes mentionner ce livre-là en indiquant que c'était un livre qu'il fallait absolument lire. J'ai eu des conversations avec des hommes et des femmes dans le milieu politique, avec des gens à la tête des grands médias. Mmh. Et puis tous s'entendent sur une chose, c'est qu'il faut qu'effectivement on soit en mesure de pouvoir réguler, encadrer les activités de ces géants numériques-là. Prenons juste l'exemple de Netflix. Netflix est en train de devenir, en fait, il est devenu depuis deux semaines la source audiovisuelle la plus importante pour écouter la télévision. Ce ne sont plus Radio-Canada, ce ne sont plus TVA ou les autres réseaux généralistes qu'on connaissait. C'est Netflix maintenant que les gens écoutent davantage que nos télévisions traditionnelles.
Oui.
Alors ça veut dire que on a perdu le contrôle de la promotion, de la production, de la diffusion de notre propre culture.
Oui, mais pourquoi nos gouvernements n'ont pas réagi un peu plus tôt, dès le début? Ils ont pris ça à la légère ou bien?
Ben, écoutez, vous allez pouvoir le lire dans le livre, peut-être que vous l'avez déjà lu, mais juste raconter aux gens qui nous écoutent.
Pour les gens qui nous écoutent, oui.
C'est ça. Alors, ce qui s'est produit, en fait, c'est que, là, d'une part, en 1999, le CRTC a pris une décision qui, à mon point de vue, était complètement stupide. Il a décidé que Internet ne les concernait pas. Il fallait leur donner le champ libre pour qu'ils puissent connaître un essor. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'à ce moment-là, en 1999, ce ne sont pas tous les médias, toutes les GAFAM qui étaient déjà en activité.
Oui.
Mais à partir de 2004-2005, l'arrivée de Facebook, le développement aussi qu'ont connu Twitter la même année, Google qui était déjà installé, mais qui est devenu une grande puissance numérique comme à peu près aucune ne l'avait été jusque-là.
Ouais.
Alors, ils se sont installés. Il n'y a jamais eu aucune intervention gouvernementale entre 1999 et 2019. Pourquoi?
Wow.
Parce que on était subjugués complètement, ébahis devant tant de modernité, de créativité. Steve Jobs de Apple est un dieu. On a fait des films sur lui. Jeff Bezos d'Amazon, la même chose.
Oui,
Zuckerberg
oui.
de Facebook, la même chose. Mm-hmm. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu comme, voilà nos grands leaders de la modernité de l'an 2000.
Mm-hmm.
Mais on a oublié qu'à travers ça, ces gens-là se sont installés et ils ont fait complètement fi de toutes les législations de nos gouvernements. Et c'est né qu'en 2019, où tout à coup, Justin Trudeau, qui s'est fait élire pour un gouvernement minoritaire, son premier là, en 2019,
oui.
Que là, tout à coup, il a changé son fusil d'épaule, alors qu'avant, il ne fallait pas toucher aux GAFAM. À partir de 2019, il a dit « Non, non, là, on va changer notre politique dorénavant.
Ah, » peut-être que c'est la nouvelle équipe qui lui a conseillé ça.
Ben, moi, je pense que oui. Je pense que entre autres, un qui l'a conseillé puis qui a bien fait son travail, à mon point de vue, durant cette période-là,
oui.
C'est Stephen Guilbeault, mm-hmm. qui a été ministre du patrimoine canadien, qui a fait un travail excellent mm-hmm. pour faire avancer ce dossier-là. Le malheur, par contre, c'est que le gouvernement libéral a pris la décision de convoquer une autre élection en 2021, de telle sorte qu'un des projets de loi qui aurait pu nous faire avancer rapidement pour mettre à jour la loi sur la diffusion, la radiodiffusion,
oui.
Il est tombé au feuilleton parce qu'il y a eu déclenchement d'élection. Alors, tout est à recommencer et là, on est encore actuellement en train d'étudier un nouveau projet de loi qui s'appelle le projet de loi C-11.
Oui.
Et ce projet de loi-là devrait normalement nous donner un certain nombre d'orientations, de stratégies, notamment pour créer un CRTC qui va, lui, dorénavant, avoir un droit de regard aussi bien sur les entreprises numériques que les autres entreprises, aussi bien les canadiennes que les entreprises étrangères. Donc, déjà, il y a un gros pas qui pourrait être franchi, mais cette loi-là n'est toujours pas adoptée. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'élection encore, parce que sinon, ça sera encore retour à la case départ, comme on dit quand on joue un jeu de société.
Oui, oui. Et puis, ce qui m'a frappé dans ce livre encore, quand vous dites à la page 36, le loup dans la bergerie, là, oui. Vous dites, rappelons qu'en 2017, lors de cette entente avec Netflix, la chef de cabinet de Mélanie Joly était Leslie Church. Le oui. parcours de celle-ci est révélateur. En effet, Leslie était recrutée par l'équipe libérale de Justin Trudeau alors qu'elle travaillait chez Google Canada à titre de Head of Communication and Public Affairs.
C'est ça. Alors, le loup dans la bergerie, écoute, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à Mme Church parce que, par ailleurs, elle a travaillé sur des dossiers
oui.
Elle a réussi à faire avancer.
Oui.
Mais ce que je dis, par contre, c'est que il n'est pas normal qu'on soit collé à ce point avec des entreprises qui sont les entreprises qui veulent, par leur lobbying, par leur puissance, imposer ce qu'on appelle un calendrier de lois qui, lui, leur soit favorable plutôt que défavorable. Alors, on en est là aujourd'hui encore maintenant parce que le nombre de lobbyistes, comme je l'explique dans mon livre,
oui.
Le nombre de lobbyistes qui travaillent à l'heure actuelle pour les géants numériques, c'est astronomique, le nombre de personnes qui font des rencontres régulières avec des ministres pour essayer d'influencer leurs décisions et leurs choix de législation.
Est-ce que c'est légal tout ça?
C'est
genre d'approche, je veux dire.
Oui, ça veut dire que c'est légal, il n'y a rien d'illégal de faire du lobbying. Si vous et moi, demain matin, on représentait votre radio, faudrait s'inscrire dans le registre des lobbyistes.
Ah bon?
Alors donc, c'est comme ça qu'on encadre ça. Le problème, par contre, c'est que vous et moi, on peut avoir un représentant ou deux représentants, mais Google risque d'avoir des dizaines de personnes qui vont travailler uniquement sur ces dossiers-là.
Oui.
Facebook tente à l'heure actuelle de faire intervenir beaucoup, beaucoup leurs représentants
oui.
pour que la prochaine loi qui pourrait être adoptée pour faire payer Facebook les articles qui sont repris dans les médias du Québec, du Canada, qu'ils soient capables de payer un montant d'argent, là, des redevances.
Oui.
Alors, voyez, on est dans un univers où ces gens-là sont actifs pour essayer d'empêcher qu'il y ait trop d'encadrement de leurs opérations et du coup, comme disent les Français, de leur profit et de leur revenu. Parce que leurs profits ont augmenté. Vous avez vu mon tableau que j'ai dans le livre « Les barbares numériques
oui. »
où je fais la démonstration qu'au cours des deux dernières années, ces entreprises-là se sont enrichies comme à peu près personne dans toute l'histoire
oui.
avait pu s'enrichir. Et tout ça, on est en pleine temps pandémie, nous autres. Nous, on s'endette pour peut-être les 25-30 prochaines années,
oui.
mais ces entreprises-là ont fait des profits pharaoniques, comme on dit. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils ne donnent pas une scène pour nous aider à rembourser cette dette-là qu'on est en train d'accumuler. Alors, il faut aussi que ces entreprises-là agissent comme de bons citoyens corporatifs.
Mais où est-ce que les gouvernements doivent avoir de la puissance pour essayer de contrer ces grandes puissances ou bien ces monstres? Moi, je les appelle les monstres aussi. Oui.
Ouais, ben oui, ça peut être. Moi, j'ai utilisé barbare.
C'était peut-être plus gentil. Ouais, on peut les appeler fugeurs.
C'est ça. Mais on aurait pu faire des monstres.
Oui, les monstres.
Ben, écoutez, je pense que il y a au moins une bonne nouvelle.
Oui.
C'est que le gouvernement a commencé à réagir.
Oui.
Je disais tantôt que malheureusement, il y a eu des déclenchements d'élections.
Oui.
En 2021.
Mm-hmm.
Mais là, l'actuel gouvernement. Le ministre du patrimoine canadien, M. Rodriguez, Rodriguez,
oui.
Il a comme mandat dans sa lettre, ses lettres de mandat, il est obligé, d'une part, de changer la loi sur la radiodiffusion qui n'avait pas été mise à jour depuis 1991. Alors là, ça va normalement être fait au cours des prochains mois. Il a aussi, il déposera probablement d'ici 2 à 3 semaines une autre loi qui, elle, va obliger les géants numériques à payer des redevances aux médias.
Oui.
Et il y aura peut-être un autre projet de loi qui s'en vient, qui est sur les propos haineux et puis sur l'intimidation sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est des bonnes nouvelles.
Il y a des choses qui évoluent.
Oui.
Mais si vous... regardez aussi dans mon livre, ce que je dis, c'est que ça, c'est pour le gouvernement canadien. Mais dans ce qui concerne le gouvernement québécois, il doit lui aussi s'affairer à trouver une stratégie globale pour pouvoir aider notre culture francophone, mais on pourrait ajouter aussi la culture des Premières Nations qui ont besoin d'aide. Parce que si nous, on a de la difficulté à pouvoir percer comme francophone dans l'univers numérique, imaginons ce que c'est quand on est une Première Nation de la Côte-Nord ou des cris de la région de la baie James.
Ah oui, c'est vrai. Alors, mais vous ne pensez pas que dans ce cas-là, les gouvernements provinciaux vont commencer à hurler aux loups, hurler avec les loups pour dire que pourquoi est-ce que le fédéral se mêle de leurs affaires?
Oui, c'est vrai, mais si vous regardez dans mon livre, encore une fois, je parle, moi, de faire cohabiter deux souverainetés.
Voilà. C'est ça.
Okay?
Oui.
La souveraineté culturelle du Canada, elle doit intervenir dans les sphères d'activité qui lui sont propres.
Alors, oui.
Ce dont on parlait, les projets de loi que M. Rodriguez s'apprête à faire adopter. Mais du côté du gouvernement québécois, moi, ce que je dis aussi, c'est que la souveraineté culturelle, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça, moi, je suis un vieux monsieur, mais il y a un premier ministre qui s'appelait Robert Bourassa qui avait développé une idée qui s'appelait la souveraineté culturelle.
Oui.
Et c'était une façon de proposer une alternative au projet de souveraineté du Parti québécois à l'époque, on parle dans les années 70. Alors, la notion de souveraineté culturelle, aujourd'hui, à peu près tous les partis politiques à Québec, à l'Assemblée nationale,
oui.
pourraient s'en emparer et pourraient sans doute, en vertu de cette idée-là, par exemple, donner davantage de pouvoir et de ressources au ministère de la Culture et des Communications.
Oui.
Parce que si un projet nationaliste, on va l'appeler comme ça, là, à défaut d'en avoir un autre, si un projet nationaliste qui devrait normalement bien s'établir dans une société comme la société québécoise majoritairement francophone,
oui.
ça serait d'aider la culture et la langue française.
Oui.
Or, c'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait du nationalisme économique, ce que j'appelle du nationalisme de comptable. C'est bien utile pour les entreprises, mais ça permet pas à nos créateurs de proposer une bonne et belle culture
la
société.
C'est ça, c'est comme la culture était laissée sur le trottoir, quoi.
Absolument. Puis l'autre chose, dans mon livre, je dis aussi que cette culture-là, c'est une culture qui est immensément riche. Elle est bonne. On produit de bonnes téléséries, de bons films, on produit de bonnes chansons, on produit de la musique, on produit toutes sortes de choses extraordinaires.
Mm-hmm.
Et malgré tout ça, on ne soutient pas correctement cette culture-là.
Oui, oui.
Et malgré tout ça, on est toujours en train de penser que ce sont les immigrants qui nous empêchent, nous, de pouvoir exister et de faire survivre la nation canadienne-française ou la nation québécoise, appelez-la comme vous voulez.
Oui.
Et moi, je dis qu'on fait erreur complètement. Parce que actuellement, ce qui menace le plus la société québécoise pour son assimilation,
oui.
c'est le fait que les moins de 35 ans sont toujours sur les géants, les plateformes et les réseaux des géants numériques, et ça se passe en anglais.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toutes les émissions, quoi, sans oublier les Amazon Prime et autres. Voilà, c'est vraiment... Pour les 45 dernières secondes qui nous restent,
Oui.
Quel est le message que vous avez lancé à ceux qui sont accros de ces monstres, de ces barbares numériques?
Développez votre esprit critique.
Oui.
Faites une prise de conscience et résistons et obligeons les États, nos gouvernements, à réagir et à établir une réglementation et un encadrement pour faire en sorte qu'on puisse cohabiter correctement avec ces géants numériques-là, ces barbares numériques.
J'aime le titre, quand j'ai reçu le livre, j'ai dit « c'est pas vrai ». Alain Saulnier, « Les barbares numériques ».
J'ajouterais oui. « Lisez mon livre, Les barbares numériques
oh ». Non, je vous le dis, je vais le conseiller tout le temps d'ailleurs. Il est tout nouveau, tout frais, il est sorti en début février là, 2022. Alors, « Les barbares numériques » d'Alain Saulnier, « Résister à l'invasion des GAFAM ». Merci beaucoup à vous. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un tome 2.
Ben, mettez pas de pression, là.
Merci beaucoup à vous.
Allez, au revoir, bonne journée.
Au revoir, merci. C'était Chine, Oxygène. Merci beaucoup à toi, Maurice Bolduc. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Alain Saulnier. Les barbares numériques, comment résister à l'invasion des GAFAM aux éditions Éco-Société. Merci à vous, chers fidèles auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, à la même heure sur les ondes de Canal M. Cette émission est rediffusée du lundi au du mardi au samedi à 5h du matin pour les couches tard et les lèvres tôt. Allez, je vous dis, prenez soin de vos minutes et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao.